Radio FMR. Disruptiv.
Dans cette release de CPU, une ritournelle, une dictée magique, un seul en scène et deux longues couettes bleues. Notre invité est Celly Dreams, auteur-compositeur pour Vocaloid. L'équipe aujourd'hui d'Askritch et Gabriel. Et j'espère que vous avez mis vos IA sur silencieux. Ok, c'est parti. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui as ouvert tes esgourdes pour m'écouter déblatérer. Le sujet aujourd'hui est la synthèse vocale, ce qui veut dire qu'on va parler dans le dos des machines, critiquer leur accent, leur intonation et surtout leur manière pédante de ne pas parler avec notre bel accent régional, nom d'une chocolatine. Faire parler des machines comme un humain n'a rien de neuf. C'est même plus vieux que l'informatique. Dès le XVIIIe siècle, des inventeurs tentèrent de reproduire mécaniquement la voix humaine, ou plus exactement, de trouver une manière synthétique de produire des voyelles et de les enchaîner pour former des mots. À peu près. Il fallait autant d'imagination pour comprendre ce que tentait de vous dire l'opérateur que pour utiliser l'engin à brailler. Et déjà, on s'oriente vers des modélisations empiriques du larynx pour produire ces voyelles à travers des espèces de sifflets d'orgue. Fin du 19e siècle, un inventeur se spécialise dans la manière de permettre à des sourds de percevoir des sons et de tenter de s'exprimer oralement. Ce spécialiste de l'élocution, Alexander Graham Bell, tente de faire de la synthèse vocale avec un piano, mais devant les limites de la mécanique, il se tourne vite vers l'électricité. Son nom vous dit quelque chose puisque ses recherches dans le domaine l'amèneront à créer le téléphone en 1876. Et oui, cet Alexander Graham Bell, dont le nom de famille deviendra synonyme aux États-Unis du plus grand laboratoire privé de recherche, les Bell Labs, lié au monopole des télécoms AT&T. Quant à ces tentatives de synthèse vocale par l'électricité, on pourrait y voir un ancêtre de la musique électronique que popularisera un demi-siècle plus tard Léon Saramin. L'électrique et l'électronique vont faciliter la création de sons, mais c'est clairement l'informatique qui va aider à mieux synthétiser la voix humaine. En modulant les sons différemment, en accentuant, en associant mots et phonèmes, en combinant les mots et grâce à la plasticité d'un logiciel par rapport à des circuits pré-câblés. Enfant du futur immédiat, tu n'es pas sans savoir qu'aujourd'hui, la synthèse vocale est partout. Dans les services téléphoniques interactifs.
Cette étoile sur le clavier.
Dans les ascenseurs.
Neuvième étage, sous-sol terrasse. 5 secondes d'arrêt, attention à la marche.
Dans le système de guidage GPS.
Tournez à droite. Ah non, tournez à gauche en grillant le feu rouge et priez.
Dans l'assistance de lecture aux personnes aveugles.
Celui qui lira ceci est un idiot. Ah ben merci, je m'en souviendrai. Moi aussi, j'aime rire.
Dans la traduction automatisée,
win the yes, need the no to win, again the no.
Et dans la demande de rançon pour le kidnapping de tes jouets préférés.
Fais tes devoirs et tu reverras ton sudoku électronique.
La synthèse vocale est devenue un outil d'accessibilité ou de résolution à des contraintes matérielles puisqu'il permet d'ajouter des informations complexes avec un minimum de composants. Et pratiquement tous les systèmes d'exploitation proposent au moins une bibliothèque de synthèse vocale en standard. D'ailleurs, il y a même une API JavaScript du W3C pour faire de la synthèse vocale directement depuis un navigateur web. Enfant du futur immédiat, je voudrais revenir sur un usage particulièrement touchant de la synthèse vocale avec un cas de clonage de voix d'humain, celle de la voix de Charles Bietri. Cet homme a perdu l'usage de la parole suite à une maladie longue et invalidante, la sclérose en plaques, et plaide pour son droit à mourir. Un journaliste radio et télésportif ultra reconnu qui ne peut plus parler, mais qui souhaitait s'exprimer publiquement de sa propre voix sur un débat de société qui le concerne.
Bonsoir Monsieur le Président, je suis Charles Bietri, atteint par la maladie de Charcot depuis 8 ans et le sachant depuis 3 ans. Ma vie a été très belle, je voudrais bien que maman le soit aussi.
Qu'on apprécie ou pas l'individu, qu'on soit révolté ou non sur les dérapages éventuels de cette loi, il a le droit d'exprimer son opinion sur le sujet. En clonant sa voix avec les archives audiovisuelles, la synthèse vocale et l'IA ont permis qu'il parle publiquement pour une question de dignité. On l'a rapidement abordé en introduction de cette émission, mais le monopole du téléphone aux États-Unis a donné à AT&T une rente littéralement énorme. Budget dépensé entre autres à un immense groupe de recherche aux moyens industriels, les Bell Labs. Et dès leur début, la recherche autour de la voix et de sa synthèse seront un pôle qui servira autant à des démonstrations techniques qu'à d'éventuelles applications pratiques. Par exemple, en 1928, commencent les travaux sur le vocodeur, un appareil qui permet de mesurer la fréquence de base et ses sous-fréquences d'une voix. Lequel a donné un autre appareil en 1937, le Vocoder, Voice Demonstrator, un orgue électronique à recomposer des phonèmes, donc à synthétiser une voix. Mais, comme son nom l'indique, ce n'est qu'un démonstrateur qui était prévu pour le World Fair de New York en 1939. Et sa mise en œuvre demande beaucoup d'entraînement et de patience pour maîtriser les voyelles, l'intonation, l'accentuation et en tirer une phrase intelligible avec son clavier et son pédalier. Mais cet appareil va devenir intéressant par les modélisations techniques précises qu'il emploie pour la génération électronique de la voix. Mais cette année-là, l'Europe puis le monde s'embrasent. Le vocodeur aura un usage pour chiffrer les messages radio de l'armée américaine. Le vocodeur, lui, passera la guerre sous une bâche. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les Bell Labs sont toujours plus puissants et vont acheter plusieurs ordinateurs. On parle de machines qui sont très coûteuses, qui prennent la place d'immeubles entiers, qui tournent encore en tube à vide à la puissance extrêmement modeste et où tous les logiciels étaient encore à écrire, jusqu'à l'OS. Mais les Bell Labs débordent d'argent et peuvent donc laisser des équipes de chercheurs en explorer les possibilités. Et l'un d'entre eux, l'IBM 704, sorti en 1954, va faire parler de lui. Non pas uniquement parce qu'il est l'un des premiers modèles à pouvoir faire des calculs en virgule flottante, mais parce que les génies des Bell Labs vont lui faire faire de la musique, le faire parler et le faire chanter. Ainsi naquit la synthèse vocale. Max Matthews va ainsi écrire le programme Music qui permet de faire de la synthèse sonore, l'un des tout premiers à générer des formes d'ondes à la demande. Et dès qu'il libère le pupitre, le physicien John Larry Kelly et le neuropsychologue Louis Gertzmann peuvent plonger dessus pour explorer la voix de synthèse. Finalement, l'équipe synthèse vocale aura un ordinateur un peu plus récent, un IBM 7094, qui n'a plus des tubes à vide mais des transistors, une autre invention des Bell Labs. Le système démontré par le vocodeur passe désormais par la transcription d'une phrase écrite en phrase sonore, simplifiant grandement le dispositif. Et outre avoir fait parler le gros Barbone Bleu, l'équipe s'amuse à lui faire chanter une petite ritournelle écrite à la fin du 19e siècle. Decibel. C'est un acte de recherche pur qui n'était pas censé avoir d'application pratique, juste de quoi épater quelques happy few et conforter le statut de multinationale innovante à AT&T devant les caméras de télévision du monde entier. Écoutons donc l'IBM 7094 chanter Decibel, programmé par Carol Lockbaum et John Larry Kelly, accompagné par l'IBM 704 du labo d'à côté pour la musique, programmé par Max Matthew.
A stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for me.
Deux ordinateurs pour la performance que vous venez d'écouter, alors qu'il ne devait pas en avoir plus d'un millier dans le monde. La petite histoire murmure que le chercheur et écrivain de science-fiction Arthur C. Clarke a assisté en 1961 à une démo privée en allant voir un copain qui travaillait au Bell Labs. Celle-ci l'a suffisamment marqué pour qu'il y fasse référence dans le film 2001 l'Odyssée de l'espace qu'il a coécrit avec Stanley Kubrick. Attention, spoiler alert, la citation a lieu quand l'astronaute Darry Bowman lobotomise carte fille par carte fille l'ordinateur HAL 9000. Ce dernier régresse jusqu'à chanter Decibel, lui rappelant dans sa trépanation ses origines insouciantes quand il était un multiprocesseur innocent. Et là, autre trigger warning, je diffuse cet extrait de souffrance informatique, désolé aux IA, que je choque.
Daisy. Daisy. Give me your answer, too. I'm half crazy. All for the love of you.
Décibel deviendra, par cette scène, le Hello World de la synthèse de chant, l'exercice obligé pour prouver qu'on répond à minima à l'exercice. D'ailleurs, maintenant, il suffit d'écrire un LLM genre ChatGPT, fais-moi une cover métal de Décibel, et l'IA fera tout le travail de composition, instrumentalisation, interprétation et mixage pour donner ceci. On notera qu'il a très librement réinterprété les paroles, ce qui ne correspond pas au canon de l'exercice.
Bicycle built for two. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. Daisy, Daisy, give me your answer, do. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you'll look sweet upon the seat of a bicycle built for two. We will go tandem as man and wife, Daisy, Daisy. Pedaling the way down the road of life, I am my Daisy Bell. When the road's dark, we can both despise policemen in lamps as well. Bicycle built for two. Daisy, Daisy, give me your answer to. I am crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for two. I will stand by you in weal or woe, Daisy, Daisy. You'll be the bell which I'll ring, you'll know, sweet little Daisy Bell. If I don't do well, I will permit you to use the brake, my beautiful little Daisy Bell. Daisy, Daisy, give me your answer to. I'm half crazy, all for the love of you. It won't be a stylish marriage. I can't afford a carriage, but you love sweet upon the seat of a bicycle built for two.
Vous écoutez Réphémère.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et dans cette émission, on y parle de nous, les synthèses vocales.
La première application palpable par le grand public de la synthèse vocale fut un jouet éducatif, le Speak and Spell, en français, la dictée magique. Ce jeu démontra tout le savoir-faire de Texas Instruments en 1979, de la création des puces, leur programmation, la conception du boîtier, le logiciel et bien évidemment la facilité d'usage pour les enfants. Le boîtier fait un imposant 25,5 cm par 17,7 cm d'une couleur rouge très vive avec une poignée faisant partie du corps pour rappeler que l'engin est transportable, car après tout, il ne pèse qu'un demi-kilo. La forme étant rectangle arrondi pour éviter les angles saillants, l'épaisseur de 3,5 cm est due à la fois à l'épaisse coque plastique, mais aussi aux 4 piles LR14 pour l'alimenter. Des piles cylindriques de 2,5 cm de diamètre. Et oui, les piles 3A étaient quasiment inconnues à l'époque, et l'électronique demandait alors pas mal de puissance en ampérage. En façade avant, on a un écran de 9 lettres électroluminescentes se partageant un bandeau noir avec le haut-parleur, et en dessous, un clavier sensitif de 40 touches, parfois pas très sensible. Oui, c'est construit solide pour durer et pour les enfants à partir de 8 ans. Cet engin est ce que l'on appelle maintenant un banger, tellement il s'est bien vendu, et il a été décliné en plusieurs versions. Par exemple, il existe une référence avec un clavier en braille à destination du public malvoyant américain. D'autres jeux conçus sur la même base furent commercialisés. Speak and Math avec les jeux mathématiques, les maths magiques en français, et Speak and Read, la lecture magique en français. Le Speak and Spell fut décliné à l'international, avec des déclinaisons en espagnol, en allemand, en japonais, en italien, en chinois et en anglais britannique. Mais oui, l'original avait un accent américain.
C'est inexact, et c'est encore une fois.
Ah oui, et évidemment, la version française l'a dictée magique.
Bonjour. Epel, enfant.
À la Noël 1979, la dictée magique se trouvait en France en tête de gondole des hypermarchés. La presse s'extasiait de ce jouet éducatif à l'électronique si élaborée et la pub passait à la télé.
Réponse exacte.
Dictée magique de Texas Instruments, le progrès qui fait progresser.
C'est correct.
D'ailleurs, la localisation française de son vocabulaire a été supervisée par Maître Capello, un linguiste star co-animateur de jeux télé.
Je donne 100 francs au personnel naturellement.
Sa longévité commerciale est à noter. Ce jouet ne fut pas un jeu de paille comme la plupart des consoles de jeux arrivées au début des années 1980. En 1982, la dictée magique fit une apparition remarquée dans le film E.T. The Extraterrestrial de Steven Spielberg. Un placement publicitaire dans le film, mais avec un rôle parfaitement intégré au scénario, dans un dispositif, et ceci alors que le E.T. du titre essaie de parler humain.
E.T. Maison téléphone.
Maintenant, passons par cette trappe derrière qui embarque les piles, mais pas que. Peu de gens s'en souviennent, mais l'appareil avait un port-cartouche afin d'étendre son vocabulaire et introduire de nouveaux jeux, dont un jeu concernait le film E.T. Pour les bricoleurs hardis qui babillent déjà en langage assembleur, des kits furent conçus par les constructeurs tiers pour interfacer le jouet avec des micros familiaux 8 bits. Kits qui seront utilisés notamment par des musiciens qui ne pouvaient être que séduits par cette voix synthétique et lo-fi. Il existe même un adaptateur MIDI pour y brancher un clavier de synthétiseur. Mais qu'est-ce qu'il y a de magique dans cet appareil? Je veux dire, à part la nostalgie de la génération qui a grandi dans les années 1980. À l'intérieur se trouve sa puce dédiée à la synthèse vocale, le TMS 5100 de chez Texas Instruments. À une époque où les jouets parlants utilisaient soit une cassette, soit un disque magnétique, le fait d'avoir un système sans mécanisme était totalement révolutionnaire. Et ce chipset dédié a contribué à la robustesse du gizmo qui n'a pu que séduire les parents ayant déjà vu un gosse de 10 ans s'énerver sur ses jouets. Le constructeur texan a rendu ce jeu de puce disponible pour les autres fabricants électroniques, affamés de Solid State Logic. Car cette puce, le TMS 5100, sera très demandée dans d'autres applications vocales. Elle connaîtra différentes évolutions jusqu'à l'arrêt définitif de sa gamme en 2008. 30 années de vie active, une très belle longévité. Le TMS 5100 est une puce 4 bits qui est le premier DSP, processeur de signal numérique, grand public. Il est forcément accompagné d'une EEPROM qui contient les phonèmes encodés par sample en 8 kHz sur 4 bits, calculés depuis des samples vocaux d'un comédien, et un microcontrôleur pour piloter les deux puces. Le système de compression des samples est assez astucieux. On part d'une fréquence de base de 160 Hz, dite fréquence d'excitation, et on encode des modulations de fréquence et d'amplitude 40 fois par seconde pour reconstituer les phonèmes. Le volume de données stockées utilisé pour encoder ces sons est incroyablement petit, à une époque où la mémoire est très chère. Les versions ultérieures de ce chipset pouvaient inclure dans la ROM des mots complets enregistrés en fonction de la commande faite par un client industriel. Par exemple, pour les annonces vocales d'ascenseur ou de voiture, ce qui permet d'avoir une élocution plus fluide, donc plus facilement compréhensible par un humain pas habitué à l'accent monocorde du TMS 5100.
Bonne réponse. Maintenant, Epel, arbre, et encore.
La dictée magique a profondément marqué car tous les mômes des années 1980 en Occident en ont vu un. Il faut dire que par ses dimensions et sa couleur vive, l'engin est absolument immanquable dans une chambre d'enfant, même pas rangée. Par pure nostalgie, ce jouet éducatif a donc été aussi porté en émulateur MAME et en page web. En 2019, soit 40 ans après sa première sortie, la dictée magique a les honneurs d'une réédition officielle. Le boîtier est quasi comparable à l'origine, si ce n'est l'affichage désormais à cristaux liquides et l'absence du port d'extension. Le clavier serait toujours aussi sensitif, on ne va pas dire qu'il n'était tant regretté que ça. Le timbre de la voix par contre a changé, profitant d'un chipset plus puissant. Il y a aussi des applications mobiles qui ne sont pas officielles et qui n'ont pas le timbre si caractéristique du jeu originel. Donc oui, vous pouvez offrir aux petites nièces et neveux une dictée magique. Le poids et la robustesse de l'appareil promettent d'avoir une certaine utilité dans les bagarres.
Baston !
Mais il n'y a qu'un seul inconvénient. Il n'est ressorti qu'en version américaine.
I am, you are.
Les modèles originaux francophones se trouvent sur les sites d'occasion, comme Le Bon Coin, pour environ 70 euros.
Vous écoutez Radio FMR.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et dans cette émission, on y parle de nous, les synthèses vocales.
Boston, 30 janvier 1984. Devant un public archi-enthousiaste, Steve Jobs sort d'un sac le premier Macintosh, le branche sur scène, exhibe une disquette de sa veste, l'insère, ce qui lance un premier slideshow, puis Steve dit
« We'd like to let Macintosh speak for itself. »
Et maintenant, laissons le Macintosh parler de lui-même.
Hello, je suis Macintosh. Ça fait du bien de sortir de ce sac.
Lorsque Steve Jobs présente le tout premier Macintosh dans sa toute première keynote, l'ordinateur a suffisamment de capacité pour faire tourner un logiciel de synthèse vocale par défaut, sans ajout d'hardware. Sinon, l'arabe, mais... Chut. Non seulement la keynote du Macintosh a été une référence sur la manière de lancer un produit, mais c'est aussi la première présentation produit d'un ordinateur grand public démontrant une synthèse vocale out of the box. Steve Jobs sentait qu'une telle application serait un bel effet de manche pour la démo de son nouveau produit. Et objectivement, le speech du Mac est drôle. Son petit discours est bourré de petits gags et participe à lui donner commercialement une personnalité. Mais revenons un peu en arrière. Moins de 2 semaines avant la grande soirée, Steve Jobs s'est écrié « I want the Macintosh to be the first computer to introduce itself. » Je veux que le Macintosh soit le premier ordinateur à se présenter lui-même. Jobs a commissionné Mark Barton pour concevoir la synthèse vocale. Le développeur indépendant n'est pas novice en la matière et s'était déjà fait remarquer sur Apple II avec son SAM, Software Automatic Mouth. Barton porte donc son SAM en assembleur Motorola pour ce qui deviendra Macintalk. Le Mac n'a alors que 128K de RAM et on doit pouvoir faire tenir dans la même disquette de 400K un système bootable et un logiciel. L'ordi compact n'a pas encore de gestionnaire audio et donc son premier soft de synthèse vocale pilote directement le matériel. On va rappeler qu'il s'agit d'une commande en rush pour que Steve Jobs roule des mécaniques sur scène la semaine suivante. Lors du lancement de la bestiole, Macintalk est proposé aux développeurs d'applications comme bibliothèque supplémentaire au système 1. En 1993, Apple présente Speech Manager, réécriture majeure du système de synthèse vocale Macintalk qui est désormais inclus par défaut dans le système 7. La bibliothèque va de pair avec la reconnaissance vocale dans une suite de fonctions appelée Plain Talk, laquelle demande désormais un processeur 68020 qui a un peu plus de puissance que le processeur des premiers Macintosh. Macintalk sur System 7 va comporter différentes voix. Fred,
I sure like being inside this fancy computer.
Junior,
My favorite food is pizza.
Albert,
I have a frog in my throat.
Cathy,
Isn't it nice to have a computer that will talk to you?
Zarvox,
That looks like a peaceful planet.
Et Whisper,
Hey you.
En clin d'œil à la keynote de 1984, les phrases de présentation de certaines voix comportent un petit gag. Comment ces voix sont devenues iconiques? Pas uniquement à cause de la préinstallation sur les Macs, mais aussi parce que le Mac a été pas mal utilisé en musique et que son grand compétiteur dans ce domaine, l'Atari ST, n'avait pas de synthèse vocale fournie avec son système TOS. Dans la version actuelle de macOS, de nombreuses voix sont disponibles et dans une multitude de langues et d'accents, allant du français canadien au portugais brésilien. 27 ans après la première keynote, Steve Jobs est revenu à la présidence d'Apple, a transformé une entreprise moribonde en première capitalisation boursière, mais en août 2011, il annonce quitter son poste de CEO pour des raisons de santé. Son successeur, Tim Cook, fera sa première keynote en octobre 2011. La firme produit toujours des Macintosh, mais elle concentre sa R&D sur ses iPhones. L'iPhone a déjà fait une première évolution dans les interfaces en ayant supprimé quasiment tous les boutons d'un téléphone portable. Un projet traîne dans les labos depuis un bail, ayant pour objet de piloter un ordinateur par une simple conversation. C'est donc lors de sa première keynote que Tim Cook présente Siri, le premier assistant vocal grand public disponible par défaut.
Bonjour, je m'appelle Siri.
On s'adresse à Siri en langage naturel et Siri répond d'une voix quasi humaine. L'utilisateur n'a même pas besoin de regarder l'écran du smartphone. Après Siri arriveront les enceintes intelligentes qui ne sont elles aussi que des terminaux vocaux de services cloud. Google, Amazon et bien d'autres produiront l'idée qu'un micro et un haut-parleur suffisent largement comme interface généraliste. Et plus on avancera dans la technologie des assistants vocaux, plus la synthèse vocale va tenter de donner une illusion d'une discussion avec un humain par le timbre, le ton et les pauses. Sorti 2 ans après l'arrivée de Siri, le film Her de Spike Jones met en scène une assistante vocale interprétée par Scarlett Johansson comme si elle jouait un personnage humain.
Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation.
Voilà, je suis là.
Salut.
Bonjour, je m'appelle Samantha. Bonjour Théodore.
Bonjour.
Tu as un rendez-vous dans 5 minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non?
T'es trop marrante.
Je suis marrante? Super.
Une interprétation tellement stupéfiante. OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, s'en inspirera un peu trop pour sa synthèse vocale. on reparlera de ce lapsus.
I forget my destination. I forget my name. I can't remember where I come from. And my shuttle is in trouble. I've lost control of the spaceship, and the stars are all the same.
Computer, and I am with you. I am here to reassure you. I am here to lead you.
Will you help me?
I can take you to the right place.
Can you hear me?
I am here.
Can you hear me?
That's for you.
Alone for eternity.
Alex Gopher, Ralph and Cathy, extrait de l'album You My Baby and I, et Ralph and Cathy font référence aux synthèses vocales du Mac classique, bien sûr.
Will you try me?
You can trust me.
Talk to me.
I am here.
Explain me.
You need me. I am Kathy, and I am your computer.
Écoutez Radio Éphémère.
Nous ne pouvions parler de synthèse vocale sans parler des vocaloïdes et de la plus connue d'entre elles, Hatsune Miku. Il se trouve qu'en faisant des recherches, nous avons découvert un compositeur français qui s'en sert avec un twist que nous vous laisserons découvrir. Et en discutant avec cette personne, celle-ci a montré une connaissance très fine de ce que nous appelons abusivement vocaloïdes. Donc forcément, nous ne pouvions que lui proposer d'en parler. Par son expérience, sa connaissance de la scène créative et surtout de par sa passion. Nous avons le plaisir de recevoir par satellite Celly Dreams, Autodidacte pluridisciplinaire, développeur C, C++, C Sharp et Rust, a d'ailleurs porté Rust sur Nintendo DS et auteur-compositeur pour Vocaloid. Ceci est la première partie de l'interview. La suite de cette interview sera diffusée dans l'émission suivante. L'intégralité de l'interview est disponible dès à présent sur le site web de l'émission cpu.pm/224.
CPU carré petit utile.
C'est les Dreams, bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, depuis quand êtes-vous musicien ?
J'ai commencé en fait surtout vers 2016, pas forcément très sérieusement. J'expérimentais un peu par exemple avec des logiciels comme LMMS, qui est un logiciel open source de composition musicale. À l'époque, c'était vraiment surtout des styles un peu piano et instruments virtuels, style plus jeux vidéo, OST. Je me suis surtout mis en fait vers le Vocaloid vers les 2018, je dirais. J'avais commencé surtout sur Utahu, puisque c'est un logiciel gratuit. J'avais essayé la démo de Hatsune Miku, parce qu'il y a une démo disponible qui est utilisable 31 jours. C'est à partir de là, en fait, que, au fur et à mesure, je me suis lancé, j'ai commencé avec la démo, et après, au final, j'ai acheté le logiciel et je me suis mis en plein dedans, quoi.
Et avant, justement, cette rencontre avec les Vocaloid, dans quel style musical vous jouiez principalement ?
Avant de commencer les Vocaloid, du coup, j'étais surtout dans des styles un peu plus jeux vidéo. Je disais des instruments plus classiques et autres, un peu inspirés par les RPG japonais, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, tout à fait.
Du coup, tout ce qui est Pokémon, tout ce qui est... voilà.
Comment avez-vous découvert les Vocaloid ? Comment est arrivée cette première rencontre ?
C'était d'une façon un peu unique. C'était vers 2013 sur jeuxvideo.com. En fait, j'étais pas mal sur ce site à l'époque pour me renseigner pour tout ce qui était, par exemple, les jeux Sonic qui allaient sortir, les trucs comme ça. Mmh. Et sur un forum jeuxvideo.com, il y avait quelqu'un, c'était avant la sortie du jeu Sonic Boom, je crois, qu'il y avait un gars qui avait posté un peu un troll sur le forum qui disait que Sega changeait de mascotte pour Hatsune Miku. Du coup, j'ai essayé de me renseigner sur le personnage, quoi. Parce que je savais pas du tout de quoi il parlait. Et d'ailleurs, la première en fait chose sur laquelle je suis tombé sur YouTube en tapant Hatsune Miku, en fait, c'était même pas une chanson réelle de Miku. C'était une vidéo de danse d'un modèle 3D de Miku sur la chanson Bad Apple, qui était une
qui est un grand classique, pas mal utilisé dans les démos, ouais.
Mais c'est pas une chanson Vocaloid. Du coup, ça donnait pas la bonne idée. Mais du coup, la vraie première chanson vocale que j'ai entendue, c'était du coup Hazy Moon par Minatope.
Mmh. Donc alors, les Vocaloid, d'où viennent-elles ? Que sont-elles exactement ?
Les Vocaloid, bon, si on est précis, en fait, en général, on appelle ça plus des banques d'instruments vocaux qui sont utilisées techniquement sur le logiciel Vocaloid Editor par Yamaha. Mais après, de nos jours, Vocaloid, c'est devenu en fait un peu un terme plus général pour parler des voix de chant synthétiques. Une partie de la communauté qui a commencé le terme vocal synth, donc synthétiseur vocaux, mais en fait, c'est pas encore utilisé de façon universelle par tout le monde. Donc, de nos jours, en tout cas, quand on parle de Vocaloid, on parle vraiment de un peu de l'univers Vocaloid, donc les voix virtuelles de chant. Utilisé par divers logiciels.
En 2000, Yamaha sort Daisy, c'est le logiciel parent en fait du système Vocaloid. À ce moment-là, est-ce qu'il y avait d'autres chanteurs et chanteuses virtuelles précurseurs sur le marché des logiciels musicaux ?
Je pense qu'il y en a, il y avait sûrement des débuts. Il me semble déjà qu'à une époque, c'était avec, je crois que même le genre de chip de synthèse qui était sur la Mega Drive à l'époque. La Mega Drive, c'est le type YM2612. Il avait techniquement une partie qui était centrée sur la synthèse vocale. Donc je pense qu'il y avait déjà des débuts avant, mais je pense que c'est vraiment Daisy et Vocaloid en soi qui a plus concrétisé la chose.
Le programme est édité par Yamaha. En quoi consiste-t-il exactement ?
Vocaloid, il a eu plusieurs versions avec les années, mais le concept de base, ça s'est resté globalement le même. Le logiciel Vocaloid Editor, c'est là où en fait où la majorité du travail se fait. C'est comme n'importe quel logiciel, on va dire, de musique classique, dans le sens où on dispose d'un piano roll, qui est un piano un peu mis de côté, qui permet de mettre les notes. Et la différence en fait principale, c'est que dessus, on peut ajouter évidemment des paroles et choisir une voix. Et il y a pas mal de paramètres d'automation qui sont utilisés pour éditer la voix plus en détail, pour y donner des effets créatifs. Parce que certains s'en servent pour plus de réalisme, mais il y en a et s'en servent plus pour des effets un peu plus uniques. Parce que justement, il y en a, ils aiment bien l'aspect justement plus virtuel de la chose.
D'un côté, Yamaha, et à côté, il y a Krypton Future Media. Qui est cette entreprise et que fait-elle exactement ?
Krypton Future Media, c'est une entreprise japonaise de développement d'instruments virtuels. Ils s'occupent aussi de l'édition en fait, de beaucoup d'instruments pour leur publication au Japon. Ça inclut même des instruments en fait, étrangers qui sont publiés par Krypton au Japon. Et du coup, ils sont propriétaires en fait, de leur propre plateforme de vente Sonicwire.
Okay.
Et leur plateforme de distribution de musique Router.fm. Où en fait, justement, les compositeurs japonais peuvent en fait publier leur musique sur Spotify, etc. Et ce qui est cool pour eux, c'est que la plateforme Router.fm s'occupe un peu de tous les côtés légaux quand ils utilisent des Vocaloid et Krypton. Ils possèdent aussi le label de musique Current, qui est un label quasiment dédié aux musiques Vocaloid, à Tsunemiku, etc.
Ils ont à la fois une plateforme qui sert d'éditeur musical et ils ont leur propre label à côté discographique.
Oui. Et du coup, pour ce qui est développement, bah du coup, ils sont très connus pour leurs Vocaloid, que ce soit Atsunemiku, Kakaminerin, Kaito, etc. Mais en fait, c'est vraiment une entreprise de développement dans le milieu musical en général.
Yamaha a décidé de donner une forme, un visage, donc à ses voix synthétiques, à ses instruments vocaux. D'après vous, pourquoi ? C'est une manière de se démarquer de produits concurrents ou c'était bassement mercantile et profiter en fait d'un aspect un peu male gaze qui joue là-dessus ?
Ben, en fait, le fait de donner un visage à ces produits, en fait, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau au Japon, je dirais. C'est un peu un truc que l'on retrouve en fait sur pas mal de produits, hein, que ce soit des sodas, du jet douche, des chips. En fait, on le retrouve un peu partout. C'est fait pour donner un côté mignon, attirer les yeux, voilà. Mais après, c'est même d'une façon un peu plus naturelle pour une voix de vouloir y mettre un visage, parce que c'est justement ça, on l'associe à une personne. Mais je dirais que Yamaha en soi n'a jamais vraiment porté trop d'attention au visage humain, parce qu'en fait, si on regarde une bonne partie des voix développées par Yamaha eux-mêmes, celles-ci en fait sont souvent plutôt abstraites. Parfois, elles ont une silhouette de base humaine, mais sans beaucoup de détails. Mais en plus, si on regarde certaines voix comme VY1 ou VY2, les deux en fait, les voix, c'est juste littéralement juste un logo. En fait, c'est un logo. Il n'y a pas de forme humaine. C'est surtout Krypton Future Media qui accorde beaucoup d'attention à l'apparence parce que justement, ils s'assurent vraiment d'avoir une genre d'uniformité dans leur série qui justement, c'est la série CV, Character Vocal Series, qui justement démarré avec Hatsune Miku, mais après, du coup, qu'ils ont eu Kagamine Len. Et du coup, ils s'assuraient pas juste à mettre un personnage sur la boîte, mais porter tout le Vocaloid sur un personnage à part entière, en quelque sorte.
Et puis eux, ils n'ont pas des pianos classiques pleines queues à vendre aux salles de concert. Donc ça ne pose pas de problème de personnifier leurs instruments. Je sais d'expérience que les entreprises japonaises sont très procédurières sur leurs droits d'auteur, sur les droits dérivés. Quelle est la licence du sonore qui est générée avec un logiciel Vocaloid ? Et quelles sont les limites, du coup, s'il y en a ?
Pour ce qui s'agit de Vocaloid en particulier, la plupart des voix Vocaloid ont des termes d'utilisation qui sont plutôt similaires quand il s'agit uniquement de la voix sans s'y attacher le personnage. Les termes en fait généraux interdisent d'utiliser les voix dans des contextes illégaux, criminels évidemment, mais il y a pas mal d'utilisations qui peuvent porter des retours négatifs à la marque, comme utiliser la voix dans une campagne politique. Chose qui est actuellement arrivée pour Hatsune Miku.
Ah oui, d'accord.
Il y a un camp politique japonais qui avait essayé d'utiliser Hatsune Miku. Et l'utiliser pour du harcèlement, évidemment. Ils veulent pas. Et c'est normal. En général, la plupart des termes compliqués, c'est quand on parle de l'utilisation commerciale. Les voix seules, en fait, en général, peuvent être utilisées pour une utilisation commerciale si on ne mentionne pas l'utilisation en fait, de la voix. Donc, qu'on ne mentionne pas son nom. Donc on n'utilise pas en fait son design, parce qu'en fait le personnage en soi est considéré comme quelque chose de séparé de la voix au niveau des droits commerciaux. En quelque sorte, ils veulent qu'on paie pour le privilège de la promotion qu'est le personnage.
Est-ce qu'ils mettent des limites sur, par exemple, ce que l'on peut promouvoir en dehors de la partie politique et la partie illégale ? C'est-à-dire, si je fais une chanson, le caca, yabon, miam, miam, avec Hatsune Miku, est-ce que ça pourrait me poser problème ?
Je pense pas, vu que en général ils sont plutôt ouverts, parce qu'en fait une chose dans le milieu Vocaloid qui est appréciée, c'est justement le fait que les voix digitales permettent aux gens de faire des musiques sur un peu tout, sans vraiment avoir honte de demander à un chanteur de la chanter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de musique qui, honnêtement, je crois que sans Vocaloid, elle serait pas sortie.
Eh ben ça, on va en parler juste après une petite pause musicale où justement on va écouter une de tes créations. Donc c'est les Dreams. Vous ne bougez pas, on revient juste après ceci. Dreams featuring Hatsune Miku, The Dreams You're Living For. c'était Radio Éphémère. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec CD Dreams, qui est auteur-compositeur pour Vocaloid, pour parler des chanteurs de synthèse qui viennent inonder, via le Japon, la scène créative. On vient d'écouter Hatsune Miku. On va en parler tout à l'heure dans un autre segment de la performance que tu fais justement dans ce morceau pour le futur. Mais parlons de la plus connue de celle-ci. Qui est-elle? Quel est son type de voix, son aspect visuel et sa biographie fictive?
Hatsune Miku, c'est donc une voix virtuelle qui est basée sur l'actrice de doublage Saki Fujita. Elle a une voix un peu exagérée dans le style japonais moe, du style jeune fille 16 ans mignonne. Elle a des couettes turquoises, une figure qui est plutôt fine et une tenue à jupe dans un style en fait qui fait très futuriste, gris, noir et bleu dans sa version originale. Parce que évidemment dans les versions après, ils ont un peu édité son design parce que par exemple ils sont passés à du blanc dans certains après plutôt que le gris. C'est un peu sa biographie dans le sens parce que Krypton préfère ne pas donner trop de biographie non plus aux voix, justement, pour permettre aux compositeurs de faire un peu n'importe quoi avec, quoi, qu'ils puissent s'en servir un peu comme une sorte de cadre ou de feuille, en fait, pour dessiner, quoi. Une feuille blanche.
C'est une très belle image, ouais.
Afin qu'ils puissent être créatifs avec.
C'est une très belle image, un patron, quoi. Quelles sont les autres voix et autres personnalités qui sont disponibles dans le même style?
Alors, c'est une question plutôt difficile, parce que rien que pour Vocaloid, il y a probablement plus de 200 voix. Mais si on se base, en fait, juste sur les voix Krypton Future Media, quoi, par exemple, ceux qui ont fait Hatsune Miku, il y en a plusieurs populaires. Ça inclut Kagamene et Lin Helen, un duo de voix qui est jumelle, qui viennent, en fait, de la même personne, Asami Shimoda. En fait, c'est une fille et un garçon. C'est un peu comme un duo de jumeaux, quoi. Comme Hatsune Miku, ces voix, elles ont été conçues dans un style similaire, dans le style mignon. Sauf que ces voix sont un peu plus centrées, je dirais, sur la puissance, dans le sens où leur voix, elle est forte. Donc c'est pour ça qu'ils sont souvent utilisés dans du rock. Après, leurs vêtements ont un thème un peu différent, dans le sens où ils vont plus dans un thème blanc et jaune. Ils ont du coup aussi des cheveux jaunes qui sont surtout courts et pointus, ce qui fait contraste à Miku, qui a des longues couettes turquoises. Et ils portent surtout des shorts au lieu de porter des jupes comme Miku. Après, il y a aussi Megalina Luca, qui est un autre de la série, qui, elle, c'est une voix justement qui a été faite pour représenter plus une jeune adulte plutôt qu'une adolescente. Et du coup, c'est pour ça qu'elle a un design qui fait plus mature. Elle a des cheveux roses, une tenue noire et dorée, avec une longue robe de soirée plutôt que le style le plus mignon des autres.
Qu'est-ce qui fait que Hatsune Miku a une telle popularité justement par rapport à ses collègues numériques? Bon, en termes de popularité, c'est pas Akabi 48, mais quand même.
Je dirais que la popularité de Miku, ça vient probablement de sa polyvalence, en fait, parce que n'importe qui peut l'utiliser dans n'importe quel type de contexte. Sa voix, elle peut être douce comme elle peut être agressive, ça dépend du type de chanson dans laquelle elle est utilisée. Et en plus, le style mignon, je pense, c'est un bon moyen d'encourager la communauté à la mettre dans plein de situations, parce que du coup, ça attire les compositeurs, mais d'un autre côté, ça attire aussi les artistes qui aiment bien les personnages mignons et autres. Et du coup, on se retrouve avec vraiment tout un univers créatif, que ce soit dans les musiques elles-mêmes ou dans les vidéos musicales qui sont faites avec. On s'est même retrouvé parfois avec des gens qui créent dans la communauté en fait, des faux Vocaloid en quelque sorte, qui sont basés en fait, sur un autre. C'était par exemple le cas de Akita Nele, qui est justement une fausse voix en quelque sorte, qui a été faite à partir de Miku, mais qui a son propre design et qui a fini tellement populaire qu'elle a fini dans le jeu Hatsune Miku officiel.
Alors que c'est la même voix à la base, avec pratiquement les mêmes paramètres sonores, quoi. Les mêmes enveloppes et tout ça. Ouais.
Oui, sauf que la façon dont les gens utilisent Akita Nele, c'est qu'ils se basent soit sur Hatsune Miku, soit sur Kagamene Lin, et ils éditent les paramètres de pitch, ou plutôt plus précisément de formant, pour donner un style un peu unique. Mais en fait, de base, la voix, c'est exactement la voix d'Hatsune Miku ou de Kagamene Lin. Ça dépend de la personne.
D'accord. Hatsune Miku a fait des vrais concerts avec du vrai public et des vrais musiciens d'ailleurs. Mais du coup, qui a composé les morceaux?
La plupart des chansons qui sont utilisées en fait, dans les concerts d'Hatsune Miku, c'est des chansons qui ont été composées par des compositeurs en fait, indépendants du net, donc les homeroom producers comme on dit. C'est déjà en fait un peu comme vous et moi qui se sont décidés un jour d'acheter Hatsune Miku et composer des chansons avec elle et les poster sur le net. Donc en fait, c'est souvent les chansons qui attirent le plus l'attention et qui deviennent le plus populaires sur Internet qui finissent sélectionnées. Mmh. Krypton organise aussi souvent des concours dont les chansons gagnantes en fait finissent utilisées par la compagnie dans certains contextes. Ça peut être ajouté dans leur jeu Project Sekai, ce qui est plutôt populaire, ou alors que ce soit joué sur en concert, justement comme à la Miku Expo.
Donc en clair, c'est un peu comme Star Academy, Popstar et tout ça, sauf que au lieu de voter pour l'interprète, l'interprète est la même pour tout le monde, ce que l'on vote, c'est le compositeur derrière.
D'une certaine façon, oui.
C'est plutôt intéressant du coup que le label qui soit derrière ait décidé justement de promouvoir justement les utilisateurs réguliers de son logiciel. Je trouve ça sympa.
En plus, ça permet en fait justement à n'importe qui en fait d'avoir ces chansons qui se font reconnaître un peu à l'international, quoi.
Il y a des mises à jour régulières, des extensions, et à part le redesign graphique, en quoi ça consiste sur les évolutions ? C'est sur la qualité sonore, sur la tessiture ?
En fait, il y a beaucoup de vocales qui sont disponibles. Et en fait, les mises à jour, elles dépendent vraiment en fait de la popularité de chaque voix. En général, les mises à jour majeures, elles sont pas vraiment gratuites et représentent donc un coût. Par exemple, les voix comme Hatsune Miku, qui évidemment sont ultra populaires, ont eu une version sur Vocaloid 2, sur Vocaloid 3, sur Vocaloid 4, et en plus, il y en a une sur Vocaloid 6 qui est en développement. Mais il y en a certaines, comme par exemple la voix Mayu, qui était sur Vocaloid 3 et qui n'a jamais en fait eu d'autres versions parce que elle a juste pas eu assez de ventes en fait pour probablement justifier le coût de développement des autres versions. Donc en fait, ça dépend vraiment intégralement des ventes à ce sujet. Mais après, les mises à jour sont un peu plus courantes, par exemple sur les logiciels comme Synthesizer V, qui là, les mises à jour sont plus courantes, surtout parce que ce sont des voix qui utilisent plus la technologie IA, et du coup, il y a moins besoin de réenregistrer à chaque fois des nouveaux trucs pour que la voix soit mise à jour.
C'est les Dreams, merci d'être avec nous. On va continuer cette interview, mais on la continuera la semaine prochaine, toujours dans l'émission CPU. Et l'interview intégrale est déjà disponible dès à présent sur notre site web cpu.pm. Ne bougez pas et on donne rendez-vous à nos auditeurs dans 168 heures. À tout à l'heure. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile de Radio FMR. Dans la série Humans After All, Release EX224, synthèse vocale. Pour cette release, l'équipe est composée de Daskritch, Chief Syllabic Officer, Gabriel, Chief Phonetic Officer, et avec l'aimable participation des synthèses vocales. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sources sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm/224. Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre, c'est donc là pour ça. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain dans 15 jours à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR le jeudi en direct analogique ou numérique, il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé où elle posera sûrement la question si on peut faire déclamer du Racine en français à des gens qui n'ont jamais parlé notre langue ou pas. FMR à Toulouse sur 89.1 en FM, en DAB+ et en stream sur Internet.